Chapitre 51. Un moulin pour que ne survive que moi. Idriss s'arrêta. Il venait d'entendre des pas dans le sous-sol, des petits pas rapides de souris qu'il avait immédiatement reconnus, ceux de Zizomis. Qui d'autre que cet espion fouineur aurait pu se balader ainsi en liberté dans le palais? Il fit signe à Django de s'arrêter de marcher. Heureusement, la gosse dans ses bras avait cessé de pleurer. Elle suçait son pouce comme s'il s'agissait d'une lollipop, tout en bavant sur le col de la veste militaire de Django. Idriss pointa son arbalète cobra. Si par bonheur la souris du tipi choisissait le bon couloir et se retrouvait face à lui, il se ferait un plaisir de lui coller une flèche entre les deux yeux. Depuis le temps qu'il attendait ça. Plus de 6 ans. Depuis le jour où ce petit rat était entré dans le château et s'était mis en tête de vouloir manier un beau mieux qu'eux, il était temps d'en finir. Que tout finisse. Il se concentra. Écouta. Mais, hélas, les pas s'éloignaient déjà dans un couloir latéral en direction de la cellule de Chrysanthe et Bill.
« C'est ça le petit espion à l'intention de les délivrer !»
sifflait Idriss. Django s'était remis à marcher, doucement pour ne pas effrayer ses l'aîné.
« Impossible sans la clé de leur prison » répliqua-t-il. « Dépêche-toi, Ogénor nous attend !»
Django avait raison, Ogénor les attendait. L'empereur était assis dans son fauteuil roulant, dans un couloir large et éclairé. 10 mètres derrière lui, ils aperçurent une épaisse porte blindée, ouverte. La porte du PC Jupiter. Grâce au puissant néon au mur, ils purent admirer le système d'étanchéité sophistiqué et une partie du luxueux décor du bunker. Idriss tenta de dissimuler sa méfiance. Il aurait préféré que l'empereur les attende à l'intérieur. Qu'il soit sorti dans le couloir ne présageait rien de bon. Ogénor leva sa canne avant que Django dépose Séléné à ses pieds. « Porte-la jusqu'au PC Jupiter. J'ai fait aménager un espace rien que pour elle. » Effectivement, lorsqu'il approcha de la porte blindée, Django aperçut une véritable chambre de princesse jouxtant le bureau de l'empereur, une montagne de peluches, une tente de toile rose gardée par 2 licornes à bascule, des poupées endormies sur des matelas de mousse. Séléné courut droit vers les jouets dès qu'elle fut sur ses pieds, paraissant déjà avoir oublié tout le reste, la cellule poussiéreuse, sa poupée Lali, la peur, la faim, les bras de cet inconnu et l'absence de Chrysanthe et Bill.
« Approche-toi, Django !» ordonna Ogénor. « Et toi aussi, Idriss !»
Les deux gardes se tinrent debout devant l'empereur dans le couloir. Idriss serrait toujours son arbalète cobra au bout de son bras.
« Je voulais vous remercier, » commença le grand serf, « tous les deux. Pendant toutes ces années, plus de 10 ans, vous avez été mes jambes et mes pieds. »
Django et Idriss se regardèrent, inquiets. Ce brusque élan de sensibilité ressemblait si peu à Ogénor.
Sans vous, avant que Galien mette au point ce fauteuil roulant électrique, que serais-je devenu? Je suis incapable de monter le moindre escalier, et pendant l'hiver de fer, dans le cachot du château de Vincennes, j'y serais resté si vous ne m'aviez pas sauvé.
On sera toujours là, osa affirmer Idriss. Tu auras encore besoin de nous dans ton nouveau monde nouveau. »
Le regard du soldat passa par-dessus les épaules du grand serf et observa avec envie le confort douillet du bunker. Le seul endroit au monde où l'on pourrait survivre quand Ogénor aurait déclenché le nuage mortel. L'empereur continua comme s'il ne l'avait pas écouté.
« Vous êtes les seuls à qui j'ai fait confiance, les seuls qui ont tout vu, tout entendu, les seuls à qui je peux tout demander. »
Idriss allait encore intervenir, mais Ogénor leva une nouvelle fois sa canne.
« Ne t'inquiète pas, Idriss. Je te rassure, j'ai encore besoin de toi. Tu ne m'as jamais déçu. »
Une longue aiguille d'acier apparut soudain à l'extrémité de la canne d'Ogénor, et avant même que les soldats aient le temps de réagir, l'empereur la pointa sur le cou de Django.
Mais il n'y aura pas de place pour quatre dans mon refuge.
Je suis désolé, Django. Le voyage s'arrête là.
Le garde se statufia. Au moindre mouvement, la pointe pouvait se planter dans sa carotide.
Il tenta de s'exprimer sans presque bouger les lèvres.
Pourquoi ?
Allons, Django. Dans une ou deux minutes, tous les êtres vivants seront morts sur cette terre. Alors, pour une fois, nous pouvons bien être sincères. Faire tomber les masques.
Nous connaissons la vérité, toi comme moi, mais ton vieil ami mérite d'être mis dans la confidence.
Django roulait des yeux terrifiés. Idriss, à l'inverse, fronçait les sourcils sans comprendre ce que le grand cerf sous-entendait.
Vois-tu, Idriss, poursuivit Augénor sans que sa canne épée faiblisse, notre plus vieil ami s'est, comment dire, laissé tenter. Pour la plus vieille raison du monde. L'argent. Notre chère grande argentière est venue lui proposer des lunes, beaucoup de lunes, pour qu'il accepte de jouer un double jeu et d'informer les ennemis du Troisième Empire sur les faits et gestes du palais. Et il a accepté.
Idriss dodelinait de la tête, incapable de croire ce qu'Augénor venait de révéler. Django tenta vainement de protester, gorge bloquée.
« Non, ce n'est pas... »
« Allons, » répéta l'empereur, « ce n'est pas si grave. Croyais-tu pouvoir me tromper?
Croyais-tu vraiment que je n'avais rien remarqué? Qui d'autre que toi a tendu la main à Zizo et Alix pour qu'ils entrent dans le palais et volent le sublimateur? Qui d'autre que toi était dans la chapelle pour entendre Lunella salir la mémoire de notre maman à tous? Qui d'autre que toi entrait, sortait du sérail. J'avais besoin de Vanille. Sans elle, pas de banque du Nouveau Monde, pas d'empire, pas d'armée. Mais j'avais encore plus besoin de toi. C'est une règle d'or. Il faut toujours avoir près de soi un espion que l'on peut contrôler. C'est très pratique de pouvoir t'utiliser pour attirer tous les rebelles dans la vallée des Teinturiers, pour décider du lieu et du jour de la bataille du Mont Chauve, ou pour... » La voix de Génor trembla pour la première fois. « Rompre avec Diamante. » J'ai toujours su qu'elle n'était pas l'espionne.
Mais elle représentait un risque plus important encore. Elle m'aimait. C'était... trop dangereux. Je ne pouvais pas me permettre de tomber amoureux.
Idriss, par réflexe, avait levé son arbalète cobra et la pointait en direction de son ami d'enfance. Il attendait que celui-ci nie, proteste, conteste. Toute émotion avait à nouveau disparu de la voix du grand cerf.
« Vraiment, Django, avec tes pigeons secrets, tu as été parfait.
Je ne regrette que le vol du sublimateur. Si tu n'avais pas ouvert la trappe du tunnel à Alix et Zizo... » Mais c'est de l'histoire ancienne. Après tout, un seul moulin sublime suffit à empoisonner tout l'air de Paris. Alors, pourquoi s'inquiéter ?
Le bras d'Idriss, le corps de Django tremblait. Je vais te faire une ultime confidence, Django. Mais celle-ci, tu n'auras pas l'occasion d'aller la rapporter. Le dernier moulin, celui que nul ne pourra jamais détruire, celui que Marie-Lune avait caché au château de Vincennes et que personne n'a jamais trouvé. Je suis assis dessus. J'ai installé la poudre de pandorite et tout le dispositif de sublimation dans ce petit véhicule électrique. Ainsi, je l'ai toujours à portée de main. Il va rester ici, dans ce couloir. Je n'en aurais pas besoin dans cet abri antinucléaire à attendre tranquillement que le nuage passe.
Balbutia Django.
Je suis...
Ne t'inquiète pas, s'amusa Augénor.
Je ne t'en veux pas.
La corruption est aussi vieille que le monde. Il faudrait être stupide pour y résister. Cela prouve juste que, de vous deux, c'était toi le plus intelligent et Idriss le plus loyal.
Django eut la force de tourner la tête vers Idriss. La pointe d'acier entra de quelques millimètres dans sa gorge. Sans se soucier du sang qui coulait, il planta ses yeux dans ceux de son seul ami. Ils avaient dormi ensemble depuis toujours, grandi ensemble, appris à manier un beau ensemble. « Tue-le !» ordonna sèchement Augénor. Un éclair de colère traversa le regard d'Idriss. Pourquoi Django l'avait-il trahi? Pourquoi lui avait-il menti? Pourquoi l'obligeait-il à faire ce qu'il allait faire? Il détourna les yeux vers la porte ouverte du bunker et pressa la détente de son arbalète cobra. Django tomba en arrière, sans un mot, sans un bruit, mort sur le coup, une flèche plantée dans le front.
Merci, fit l'empereur. Tu vois, je ne t'ai pas menti. J'avais encore besoin de toi. Tu as toujours été le plus fidèle de vous deux.
Idriss ne parvenait pas à détacher ses yeux de la porte blindée ouverte. Il avait du mal à réaliser qu'il avait tué son frère de cœur pour se sauver, pour qu'Augénor lui garde une place dans son bunker.
Et le plus bête aussi.
D'un geste soudain, l'empereur se pencha en avant, tendit sa canne et enfonça la pointe d'acier dans le cœur du garde. Idriss lâcha son arbalète, terrassé par la surprise et la douleur. Il porta une main à sa poitrine, sans comprendre.
« Je suis désolé, Idriss, mais il n'y a pas de place pour toi dans le PC Jupiter. Comment as-tu pu croire un instant que je t'emmènerais ?
C'est justement pour cela que je vais détruire ce monde et en construire un nouveau, pour éliminer tous les êtres aussi stupides que toi. »
Idriss tomba, sans même entendre la fin de la phrase de l'empereur. Son corps fut saisi de quelques spasmes, puis il cessa définitivement de bouger.
Allongé, comme s'il dormait, à côté de celui qui avait partagé ses nuits depuis qu'il était né. Sans un regard pour les deux soldats décédés, Augénor tira doucement sur la couverture en cachemire qui recouvrait ses jambes et le fauteuil roulant. Les murs d'acier du couloir formaient un vaste miroir dans lequel le fauteuil se refléta. Augénor observa le mécanisme du moteur, la poudre d'or enfermée dans un long tube de verre et la phrase gravée sur une fine plaque de cuivre. « Un moulin pour que ne survive que moi ».